Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Un plan large de retour de Berlin ce samedi avec Abderrahman Sissako, Luc Razanajaun, Nelson Carlo de los Santos Arias et Romuald Karmakar et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. La cérémonie des Césars a été marquée hier par la parole de Judith Godrèche qui, malgré les acclamations, semble tout de même avoir été peu entendue par des prises de position pour l'agriculture ou un cessez-le-feu à Gaza, par le triomphe mérité de Justine Triet et son anatomie d'une chute et par un palmarès historiquement quasi paritaire avec 45% de femmes primées. À Plan Large, c'est à la 74e Berlinale, le Festival international du film de Berlin, que nous avons passé cette semaine à décaler notre regard. Un festival qui voit la fin d'un cycle, puisque son directeur artistique, Carlo Chatrian, en signe sa toute dernière sélection, poussé dehors qu'il a été, pour laisser la place à une apparemment plus consensuelle successeuse, l'anglaise Tricia Tuttle, avec pour mission de glamouriser à l'avenir le tapis rouge berlinois. Ceci expliquant peut-être cela, la sélection officielle du Cru 2024 de la Berlinale a pu déconcerter le pire côtoyant le meilleur. Est-ce l'effet de la présidence du jury, pour la première fois incarnée par une personnalité noire, l'actrice mexico-kényane Lupita Nyong'o? On a en tout cas retenu de cette 74e édition une forte tonalité africaine, avec une présence de films du continent plus forte que d'habitude dans ce genre de festival, dont très remarqué en compétition le documentaire de la franco-sénégalaise Mati Diop, Dahomey, sur la restitution par la France au Bénin des trésors royaux d'Abomey. On y reviendra quand le film sortira. Ce sera le 25 septembre. C'est un autre réalisateur africain en compétition, le Mauritanien Abderrahman Sissako, que nous avons d'abord rencontré, le cinéaste aux semelles de vent, qui n'avait plus tourné depuis 10 ans, malgré le succès de son formidable Timbuktu, nous emmène cette fois en Chine pour nous proposer une histoire d'amour, c'est une première chez lui, entre une Ivoirienne éprise de liberté, elle a dit non le jour de son mariage, et un Chinois exportateur de thé, le tout dans un marché de canton reconstitué à Taïwan. D'exil et de déplacement, comme dans toute l'œuvre du cinéaste, il est toujours question, mais avec cette fois la recherche d'un bonheur, d'une harmonie, d'une rencontre qui ne soit pas de domination, une façon postcoloniale d'interroger les rapports entre l'Afrique et un nouveau partenaire, la Chine, qui travaille le cinéaste depuis plus de 20 ans. Abderrahman Sissako.
Vous savez, 我们要采三片叶子。
Il y a 20 ans, lorsque j'ai tourné En attendant le bonheur, qui est un de mes films, il y a une scène dans En attendant le bonheur d'un Chinois qui dîne avec une Africaine. Nous sommes en 2001 et un Chinois que j'avais rencontré à Ouagadougou, en Mauritanie, qui faisait son petit business en ce moment-là. Je pense que l'idée déjà de parler de l'Afrique en tant que terre d'immigration, c'est-à-dire qu'on vient aussi en Afrique vivre pour des raisons diverses, existe et a toujours existé. C'est pourquoi il y a ce couple. Voilà. Plusieurs années après, je dirais 5 ans après, je tourne Bamako, au Mali, à Bamako, Et lorsque je tournais ce film, j'allais avec mon équipe dîner dans le même restaurant qui s'appelait La Colline Parfumée. Et ce restaurant était tenu par un couple malien et une chinoise. Et la chinoise avait fait venir dans ce restaurant, dans le quartier ACI 2000 de Bamako, sa famille, son oncle à la cuisine, sa sœur et je crois le fils de, un des fils de sa sœur. Donc il y avait ce petit monde à Bamako, au cœur de Bamako, qui tient un restaurant. Le mari malien parle parfaitement chinois. Et elle, quand elle venait nous servir, elle nous servait, elle parlait bambara. Donc j'ai dit, voilà, c'est vrai, il y a un monde qui naît, qui est en train de naître. Et ce monde, il va grandir forcément. Parce que l'humanité, c'est ça, ce sont les rencontres. Les gens voyagent, se rencontrent, font leur vie. Et pour moi, c'était important de me projeter dans une histoire cinématographique pour raconter une histoire non seulement de rencontre de deux mondes, entre guillemets, différents, parce que c'est ça qu'il faut dire. Je ne pense pas que les mondes soient fondamentalement différents, mais on peut être différent aussi, qui est une richesse en soi aussi, la différence. C'est pas, on est différent, heureusement d'ailleurs que tout n'est pas pareil. Mais quand tout n'est pas pareil et que ce monde voyage se rencontre, il y a une richesse, voilà, qui se met en place. Voilà. Même si, de façon générale, les sociétés, toute société, en général, refusent l'autre, voilà, qui arrive. L'autre, en tout cas, fait peur. L'autre inquiète. Donc, il y a des rejets. Donc, Aya, une Ivoirienne, qui dit non le jour de son mariage, et elle s'en va. Elle s'en va où ? Ben, elle est libre. Donc, elle décide, elle part en Chine. Et là, elle rencontre cet homme avec qui elle veut une histoire d'amour. Elle veut que, voilà. Tsai aussi l'aime, il y a quelque chose qui se crée. Voilà, le film, c'est ça. Pour moi, au-delà aussi de cette rencontre Chine-Afrique, parce qu'il faut dire ça aussi, qui est intéressant deux raisons. Je dirais d'abord, pour moi, cinématographiquement, parce que le cinéma a besoin de ça. Le cinéma a besoin, voilà, de « Ah, tiens, ah, mais un couple, une Africaine et un Chinois, mais c'est pas possible, ça arrive, oui. » Voilà. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est la liberté qu'on construit dans sa tête. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une envie de quelque chose, on peut pas l'emprisonner. Et donc, la liberté de Aya de partir, de dire non à sa société, en fait.
Cette rencontre, elle se fait par l'apprentissage de gestes. C'est ce qui est très beau dans cette cérémonie du thé que vous mettez en scène. C'est apprendre la précision d'un geste. Et ça, c'est très cinématographique.
Oui, parce que je voulais que Aya soit ouverte. C'est-à-dire, vous savez, lorsqu'on part ailleurs, et c'est important de... Non seulement je trouve qu'on enrichit l'autre, mais aussi on s'enrichit. Voilà. Et Aya décide d'apprendre la cérémonie de thé, qui est quand même un rituel très important pour l'Asie en général et la Chine en particulier. Mais c'est aussi le prétexte de s'approcher peut-être un peu plus de Tsai, d'être vraiment dans un rapport de face à face, dans une intimité autorisée, voilà, une sensualité possible, parce que la cérémonie de thé nécessite beaucoup, nécessite d'avoir une tranquillité, nécessite des gestes très précis, voilà, et des saveurs qu'on vit à cet instant-là. Et pour moi, c'est important que Aya donne la preuve. C'est important plutôt pour Aya, pas pour moi, pour Aya, qui donne la preuve à Tsai qu'elle est vraiment prête.
Cette rencontre, c'est aussi celle de votre imaginaire avec un autre imaginaire, celle de la Chine et du cinéma chinois. Aussi, on a l'impression que vous dialoguez précisément avec ce cinéma chinois. Alors, est-ce que c'est simplement le fait de tourner en Chine qui provoque des images qui nous parlent de la Chine, ou est-ce que vous-même, vous avez pensé à tel ou tel cinéaste, je ne sais pas, ou Xiao Xian, Wong Kar-wai et autres?
Je ne crois pas véritablement qu'il y a... Bien sûr, il y a des cinématographies. On sait qu'il y a eu le néo-réalisme italien, mais avec des cinéastes totalement différents, avec des films différents. Il y a un cinéma chinois, on dit, mais avec des cinéastes totalement différents. Donc je ne crois pas trop, vraiment, à ça. et même si j'entends et je comprends. Hein. Et je pense que c'est le cadre cinématographique. Voilà, la Chine déjà, une histoire de couple dans la Chine, et cérémonie de thé, un homme, une femme, qui se séduisent. Donc ça met un cadre, effectivement, ça donne des références, et c'est très bien de le dire. Comme Wong Kar-wai, parce que nous gardons tous en mémoire ce film magnifique, et In the Mood for Love, voilà, qui est aussi un homme, une femme, bien évidemment. Mais ce n'est pour moi, c'est pas une écriture forcément chinoise, parce que c'est l'identité d'un artiste, la sensibilité d'un artiste, voilà, d'où qu'il vienne.
Il y a un principe formel qui revient souvent dans ce film, c'est celui de la transparence. On a l'impression parfois que deux images se superposent, une femme qui marche, Aya marchant dans la rue avec en superposition des lanternes par exemple. Comment vous sont venues ces images ?
Oui, c'est vrai que l'image avec parfois des reflets comme, voilà, qui s'entremêlent, comment est venue ? D'abord, j'ai le parti pris que le film se passe que la nuit. Hein. Donc Black Tea, c'est tout, c'est la nuit, à part peut-être le voyage au Cap-Vert et le début à Abidjan. Et voilà, c'est la nuit. La nuit, pour moi, créait une sorte d'intimité qui me permettait de me loger plus facilement en Chine, parce que j'ai pas vécu en Chine, donc je suis allé plusieurs fois. Mais voilà, la nuit, c'est comme si je me cache. Voilà, c'est comme si je cache aussi des choses et aller vers cette intimité que la nuit crée. Il y a une sorte d'onirisme d'emblée, en fait, voilà, avec les reflets, avec les lumières rouges. Voilà. Ce cliché, même, on peut dire, de l'Asie avec ses lampions rouges. Pour moi, ça, c'était intéressant, qui sont des scènes dans la rue, et que dès qu'on quitte la rue, on rentre dans une intimité.
Ce qui est toujours passionnant dans votre cinéma, c'est que dès le début, dès votre premier court-métrage, Le Jeu, vous aviez tourné au Turkménistan pour représenter la Mauritanie. Vous avez tourné en Mauritanie pour représenter Timbuktu, et là vous tournez à Taïwan pour représenter Guangzhou, Canton. Alors j'imagine qu'il y a toujours des choix économiques, des raisons pratiques de fabrication d'un film, mais ça fait que vous créez à chaque fois un univers en fait, à partir de l'endroit où vous tournez.
Oui, le plus souvent quand même c'est parce que je suis empêché pour telle ou telle raison. Moi j'aurais voulu tourner en Chine, ça n'a pas été possible, la Chine n'a pas voulu, malheureusement. Et il y a une lecture, je dirais, d'un premier degré, de premier censeur, en quelque sorte, hein, parce que ce n'est pas un film contre la Chine, tout le contraire. Je pense que c'est. Voilà, si la Chine découvre aujourd'hui ce film, comprendra que ce film aurait pu être tourné en Chine. Mais, vous savez, devant la censure, je le prends vraiment comme une censure, il faut que l'art, la liberté s'impose. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas là. Et c'est ça le cinéma, sa force aussi et sa beauté. Hein. C'est, voilà, quand on ne peut pas là, on va là-bas et on crée un univers. Et le spectateur, il n'attend que d'être convaincu, il cherche des émotions. Et ces émotions-là, on les crée avec des personnages. C'est surtout des personnages qu'on crée les émotions. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragon.
can fly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean? Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Le film, c'est Fatoumata Diawara qui reprend ce Feeling Good de Nina Simone dans une très belle scène qui, en un plan, nous fait passer des faubourgs d'Abidjan au quartier de Chocolate City à Gwangju, alias Canton. Black Tea, le nouveau film romantique et mélancolique d'Abderrahmane Sissako, sortira en salle mercredi prochain. Si vous êtes parisien, une avant-première aura lieu dès lundi 20h au Majestic Bastille dans le cadre de nos séances France Culture. Elle sera suivie, comme toujours, d'une rencontre avec le cinéaste et sa comédienne Nina Mello. Contrairement au personnage qu'elle incarne dans Black Tea, le jeune héros du film dont nous allons parler à présent a choisi de rester au pays, comme son réalisateur Luc Razanajaun. Est né en 1985 à Madagascar, il a étudié le cinéma à l'ESSAV de Marrakech, mais a tenu à retourner chez lui pour participer à la renaissance du cinéma sur son île. Grand bien lui en a pris, puisque son premier long métrage Disco Africa est le tout premier film malgache à avoir été sélectionné par un festival de catégorie A, c'était cette année à la Berlinale, dans la section Génération. Il y suit, dans la lignée du cinéma des Frères Dardenne, un parcours moral et la naissance d'une conscience politique, celle d'un jeune mineur clandestin qui fouille la boue à la recherche de saphir et doit convoyer dans leur bourgade natale le corps de son meilleur ami, abattu par l'armée. Ce faisant, le jeune cinéaste fait réémerger toute une histoire des luttes à Madagascar en lien avec le grand mouvement panafricain des années 70, tout en proposant une troisième voie à la jeunesse malgache entre l'émigration et l'enrichissement individuel. Luc Razanajaun.
Papa Njif. Mais la tienne, j'ai mangé, fitené une âme de refiant à Gavina. Mané une fière à Mourin, âme de réo, c'est un fond, tu vas faire ta manœuvre de Nendif.
Je suis né en 1985. En fait, le premier tumulte que j'avais connu, c'était la crise politique malgache en 1991. Je me souviens très bien parce que c'était la Deuxième République qui était tombée. Au fur et à mesure de mon parcours en tant que jeune malgache, j'étais à l'université, je travaillais aussi en tant que jeune éducateur social dans les années 2000. Petit à petit, quand j'ai commencé à écrire des histoires, c'est au fur et à mesure des recherches que j'ai pu comprendre que Madagascar faisait vraiment partie de ceux qui avaient impulsé le panafricanisme en Afrique. Et au fait, tout le monde croyait à ça jusqu'à un moment où ça a fini par être la corruption et tout ça. Et jusqu'à maintenant, on a vraiment oublié cette partie-là de la grandeur de Madagascar. Et ça m'a toujours fasciné parce que quand on est un jeune malgache, notre seul espoir de réussir, c'est de croire en notre pays. Mais avec tout ce qui se passe depuis 10 ans, 20 ans, les jeunes ont envie maintenant de partir ailleurs parce que il n'y a plus rien du tout qui les attache au pays. Et c'était l'un de mes moteurs pour écrire Disco Africa.
Oui, parce que vous montrez deux voies possibles dans le film, c'est soit partir, soit s'enrichir individuellement pour la jeunesse malgache. Vous voulez proposer une troisième voie avec ce film ?
Avec ce film, au fait, je voulais que chaque malgache qui voit le film, ou même chaque jeune africain qui voit le film, puisse faire une sorte d'introspection. Et que qu'il puisse voir quelle est vraiment sa part pour contribuer à ce qu'il y a une troisième fois de réussite pour le pays malgache.
Pourquoi met cette découverte de l'histoire politique de son pays et des luttes des années 70 en particulier, ça passe par la musique, cette musique qu'il redécouvre. Qu'est-ce qui s'est passé musicalement à Madagascar dans les années 70?
Tout d'abord, je suis un très grand fan de musique, pas seulement africaine, mais vraiment de musique très révolutionnaire et revendicative. Il se trouve que donc à cette époque-là en Afrique, c'était par la musique que on diffusait les messages politiques ou de revendication, et Madagascar a été contaminé par ça. Par exemple, on peut voir les textes du groupe Malio pendant la lutte estudiantine des années 72, où c'est les étudiants qui se révoltaient, c'est par la chanson qui sont devenus jusqu'à maintenant des chansons hymnes, qui a fait que les jeunes ont été galvanisés. Et donc, précisément, la catégorie musicale, c'était le funk et l'afrobeat. C'était là, on peut dire, que la musique a inscrit Madagascar dans le continent.
Et ça, vous le poursuivez dans la bande-son de votre film, parce que quand on regarde, il y a des musiques de Madagascar, mais il y a aussi des musiques de l'Afrique tout entière. C'est une bande-son totalement panafricaine aussi que vous avez choisie.
Exactement, c'est une prise de position, parce que je trouve que, en termes de narration et de structure, la musique devait être aussi un des personnages qui faisait qu'on poursuivait un certain idéal. Et pour Kwame, c'est quelque chose de nouveau aussi pour lui, parce que à un moment ou un autre, un jeune, qu'est-ce qui le motive à se réveiller le matin? C'est juste survivre. Et tant que ton disco Africa, quand il y a cet environnement sonore, cette découverte, ça lui donnait envie de continuer sur sa quête personnel, familial, mais ça lui donnait aussi envie de voir qu'est-ce qui était au-delà de l'histoire du pays. Et même s'il n'a pas beaucoup tout compris de tout ce qui se passe, il s'est réveillé politiquement. Et c'était ça l'idée du film.
Ce qui est très frappant avec votre film, c'est qu'il est à la fois très social, très politique, mais c'est aussi, par bien des aspects, un film fantastique. C'est un film de fantômes, parce qu'il y a l'histoire passée, mais des fantômes qui apparaissent vraiment à l'écran. Pourquoi ce choix ?
Tout d'abord, à un moment où j'étais à un stade un peu ancien du scénario, je trouvais que je devais parler un peu de ce concept très malgache qui est que nous, on vivait avec les morts. Donc, pour nous, quelqu'un qui est parti, Razana, Razana, ça voulait dire les ancêtres, ça voulait dire aussi, c'est des gens qui sont toujours présents parmi nous. Et quand on parlait de Disco Africa, on avait deux choix, soit le fantôme translucide et tout ça, mais moi j'ai vraiment pris la position d'avoir un vrai fantôme en chair et en os, on va dire. Pourquoi ? Parce que je trouvais aussi que il fallait accompagner le personnage dans sa quête, et ce fantôme-là était vraiment un personnage aussi qui nous pose des questions, qui nous subtilement, qui nous fait un peu peur, mais qui nous fait voir où est la route qu'on doit aller. Et je précise que pendant tout le tournage du film, ce côté mystique était toujours parmi nous, parce que on était dans des endroits où il y avait des événements surnaturels qui se passaient pendant qu'on tournait le film. Je prends un exemple, la première scène qu'on a tournée, c'était l'arrivée du bus et l'arrivée du cercueil qui devait être monté. Et en tradition malgache, quand on touche à un cercueil, à un mort, même si c'est un film, il fallait faire des rituels. Et à un moment, le rituel n'était pas en entier, donc le bus ne pouvait plus démarrer. C'est ça, c'est pas mécanique. C'est...
Dans votre film, il y a aussi des événements très concrets. Par exemple, la lumière qui s'éteint la nuit parce qu'il y a des coupures d'électricité. Mais vous en faites des métaphores. Et je pense aussi à ces images où vos personnages portent une lampe frontale, comme s'ils devaient trouver leur propre lumière. Vous avez pensé à ces métaphores de la lumière en faisant ce film ?
Oui, en fait, au tout début, c'était vraiment des choses très pratiques de la vie. Mais je tenais aussi à ce qu'on soit vraiment dans une sorte de réflexion sur un film qui avance tout doucement. Et comme vous voyez, même dans le film, on commence avec des petites lumières. Et à un moment, c'est très éclairé et tout ça. Mais ça coupe tout le temps. Et c'est un peu ma réflexion sur l'histoire de la vie des Malgaches. Y a une péripétie émotionnelle, personnelle, mais aussi une sorte de noirceur qui est toujours présent et qui nous fait à chaque fois prendre une décision. Est-ce qu'on va aller à gauche ? Ça veut dire on a été battu mentalement, donc c'est fini, la lutte est finie. Où est-ce qu'on va aller à droite? Et là commence une autre aventure de liberté avec le prix qui va avec. C'est ça.
Comment est-ce qu'on tourne un film aussi libre et presque subversif politiquement que celui-ci à Madagascar aujourd'hui? Est-ce que vous avez dû ruser ou est-ce que vous aviez une totale liberté pour le faire?
En fait, j'ai jamais coupé le pont avec l'État par le biais du centre cinématographique. Pourquoi ? Parce que je faisais et je fais toujours partie des grands rêveurs qui disent que sans un fonds de l'État, le cinéma ne pourra pas amorcer l'industrie et tout ça. Ce qui fait que, personnellement, je pense que tant qu'ils connaissent mon travail en termes de court-métrage et tout ça, et peut-être aussi que, c'est un avis personnel, peut-être aussi que cette atmosphère de révolte et tout ça était aussi présent parmi des gens, décideurs, qui ont peut-être eu raison de donner un libre accès à Disco Africa. Et souvent, quand je faisais des dialogues ou des rencontres avec ceux qui gèrent la culture ou les autres entités de l'État, je leur dis toujours que avec le pouvoir du cinéma, on peut vraiment toucher à beaucoup de gens. Et si c'est une victoire pour Madagascar d'être à la Berlinale, c'est aussi une victoire pour le cinéma malgache, pour la culture en général, en Afrique et à Madagascar. Donc on ne peut qu'être gagnant. Donc c'est un peu ça.
Montrer ce film au plus grand nombre, très bien, mais comment le faire dans un pays qui, comme beaucoup de pays en Afrique, n'a plus de cinéma? Comment est-ce que ce film va être montré à Madagascar?
Ça aussi, c'est encore un point très important du film, parce que traditionnellement, dans beaucoup de pays, on va dans les multiplexes, les salles, les grandes salles et tout ça. À Tananarive, il y en a, mais c'est trop cher. Et c'est pas le plus grand nombre qui va aller avec 3 euros de ticket, 4 euros. Et donc, nous, notre idée, c'est que pour atteindre le plus grand nombre, je pense que c'est peut-être mieux de faire du cinéma itinérant à Madagascar. Ce sera du gros logistique, mais je pense que c'est à peu près le seul moyen de vraiment vivre une expérience cinéma. Comme je vous ai dit, tout est concentré à Tananarive. Pour moi, c'est vraiment important d'aller ailleurs que Tananarive. Tout mon choix de tourner Disco Africa à côté de la côte, c'est ça.
petit avant-goût de la formidable et donc très panafricaine bande originale du film de Luc Razanajaon. C'est The Ogiatana Showband du Ghana qui jouait sur une Disco Africa qui a donné son titre au film. Disco Africa, une histoire malgache, était présentée cette année à la Berlinale dans la section Génération. On lui souhaite vivement une sortie française. On ne manquera pas de vous la signaler. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on continue notre excursion berlinoise avec le film sans doute le plus fou, formellement en tout cas, qui était présenté dans la compétition de cette 74e Berlinale, un film venu de République Dominicaine. Ce n'est pas souvent non plus qu'on voit en festival des films venus de cette terre-là, mais qui commence en Afrique, en Namibie, puisque c'est de là que vient le héros éponyme du film, un hippopotame. Oui, un hippopotame, le seul de son espèce qui plus est à avoir été tué sur le continent américain. Qui faisait-il là, me demanderez-vous? Eh bien, il s'était enfui du zoo privé et totalement illégal que s'était constitué dans son ranch colombien le narcotrafiquant Pablo Escobar. Terrorisant les pêcheurs de la rivière où il s'était établi, cet hippopotame, il finit par subir le même sort funeste que son défunt maître sous les balles de la même armée. Le cinéaste Nelson Carlo de los Santos Arias, né comme Luc Razanajaon en 1985, non seulement raconte cette histoire du point de vue d'un hippopotame mort, mais il le fait avec une invention formelle permanente, mélangeant fiction et documentaire et images de tout format et tout support, comme il l'avait expérimenté dans son précédent long métrage Cocotte, qui il y a 7 ans avait fait sensation au festival de Locarno. Une forme que le cinéaste revendique comme l'expression même d'un métissage caribéen et là encore post-colonial. Nelson Carlo de los Santos Arias.
Undanks, alles ist da iets wat ik kon ondo. Die eenvoudigste en gelukkigste tijd van mijn leven.
J'ai obtenu une bourse pour aller étudier au California Institute of the Arts. Et donc, c'était la première année, j'étais financée par Cornell et j'ai pu aller à New York. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a énormément de Dominicains à New York. Ça arrive évidemment à chaque fois que les États-Unis occupent un pays. Après la période d'occupation, ils permettent à des gens de venir. Et donc, après 1965, beaucoup de Dominicains se sont installés dans le nord de Manhattan, à Washington Heights, dans le Bronx, dans ces quartiers-là. Et donc j'ai 26 ans, je fais ce film. C'était plutôt un documentaire. Je tournais et puis ensuite je trouvais le film. Je n'avais rien prévu. Je tournais d'abord et ensuite je découvrais le film au montage. Mais donc, je suis aux États-Unis. Mes professeurs, bien sûr, ne parlent pas espagnol, donc il faut que je traduise. Et c'est la première fois que j'ai perçu l'oralité des Dominicains, de la République dominicaine. J'étais vraiment éblouie. Les syntagmes, la façon d'utiliser le sujet, comment ils parlent de quelque chose et puis ensuite ils ne terminent pas leur conversation et ils passent à un autre sujet. Pour moi, c'était extrêmement inspirant sur la manière justement de construire une stratégie de montage qui ressemble à une conversation. Et ensuite, il y a une distinction politique. Parce que je viens d'un pays où on parle espagnol, qui est une langue coloniale, c'est une langue européenne, mais par rapport à l'Argentine ou le Mexique ou la Colombie, on n'a pas énormément de production de textes sociologiques ou anthropologiques. Donc tout repose sur l'oralité. Dans les Caraïbes, il y a une très forte tradition d'oralité. Alors que la langue écrite, par rapport à l'oralité, c'est vraiment une distinction justement très importante entre la civilisation et ceux qui ne sont pas civilisés. Et ça a été très important dans la rationalité coloniale. Comment est-ce qu'on produit des images? Comment est-ce qu'on produit du savoir? Parce que les images, c'est une forme de savoir. Si on pense à Deleuze, à Guattari, ils sont très importants pour montrer comment la subjectivité est déjà un concept et un processus hétérogène. L'identité, ça n'existe pas. Les États-Unis font tout sur la politique identitaire. On voit ça aujourd'hui aux États-Unis. Tout le monde dit, moi, je suis là parce que je suis latino et moi, je me mets à la place de ma grand-mère qui est venue d'Amérique latine. Mais cette idée même de l'identité qui serait ancrée dans un territoire, c'est une invention qui est liée justement à cette tentative d'homogénéisation que les pays européens ont dû faire parce que, pour citer Aníbal Quijano et sa philosophie passionnante, il disait que l'Amérique, l'Europe, la race, le capitalisme et la mère nature, tout ça est né au même moment, et c'est le moment de la colonisation. Laissez-moi vous expliquer une chose. Vous savez que quand on va en école de cinéma, on doit d'abord, pendant les 10 premières minutes, on nous dit qu'il faut présenter les personnages. Et toutes sortes de règles idiotes sur la façon de construire une scène. Et ça, c'est une simplification de Shakespeare. Comment ça se fait qu'un cinéma qui est toujours présent, qu'on traite le passé, l'avenir, etc., que ça, ce soit toujours présent? C'est pour ça que Deleuze et Guattari ont été incroyables quand ils parlaient du cinéma, parce que c'est quelque chose qui reste présent et le mouvement reste toujours aussi présent, il est toujours là.
Donc, dans ce sens, il n'y a pas de telle chose que
dans ce sens-là, le cinéma tel qu'on le décrit n'existe pas. Peut-être que c'est ça, le cinéma. Mais en tout cas, dans ce cas-là, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est raconter des histoires. Tout le monde sur cette planète peut raconter des histoires, est un conteur. Ma grand-mère était une conteuse absolument parfaite. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment on produit les images et les sons qui racontent la narration, justement, qui construisent la narration. Ce n'est pas le cinéma qui m'importe. Le cinéma, c'est très froid. Et est-ce que je suis vraiment obligée de me voir par ce prisme-là, dans ce miroir? Moi, je ne suis pas anglais. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je pense le monde en introduisant d'abord mes personnages, etc.? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'a aucune importance. Ici, vous savez, tout le monde est silencieux. Moi, je viens de République dominicaine où tout le monde parle tout le temps. Et c'est ça ma situation. Et c'est là où j'ai commencé à penser le monde. Le métissage, c'est l'hétérogénéité. C'est justement pas le noir et blanc. Ce sont des nuances multiples, toutes sortes de nuances, de couleurs. Et puis, bien sûr, il y a le jazz. Je planifie, je prévois beaucoup les choses et en même temps, pas vraiment l'esthétique. C'est quelque chose qui vient de l'improvisation. C'est comme une session de jazz. En fait, je suis quelqu'un de très jazzy.
Sírvame un aguardientoski con limón soski cantineroski. Y tranquilos que hermanoski que yo tengo ski con que pagoski. Es que estoy muy contentoski porque yo ando ski con mi amorcitoski. Y quiero que esta noche oski darle un beso ski en la boquitoski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonzoski. Y sírvale a mi amor soski un rondobloski con coca-coloski. Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonzoski. Y sírvale a mi amor soski un rondobloski con coca-coloski. Don't
aquí lo mismo ski, que me siento ski, muy borracho ski. Traigame ski un paquete ski de cigarrillos y americanos ski. Y tráigame la cuentoski que ya me voy pa' mi casoski. Vámonos, ski, todos, ski, todos.
Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonzoski.
Y sírvale a mi amorzoski un rondobloski con coca-coloski.
Sírvame un aguardientoski con pasantoski de limonzoski.
Y sírvale a mi amorzoski un rondobloski con coca-coloski.
Pepe de Nelson Carlo de los Santos Arias n'a lui non plus pas de date de sortie annoncée en France. Une présence au palmarès berlinois ce soir lui permettra peut-être d'atteindre les salles françaises comme son très attendu film de 2017, Cocotte. C'est Marguerite Capelle qui traduisait les propos du cinéaste. Dernière étape dans notre périple berlinois. Après le zoo de Pablo Escobar, celui de Zurich. C'est là qu'après un tournage inabouti à celui de Berlin, le très grand cinéaste de fiction et de documentaire, mais aussi artiste contemporain Romuald Carmacar, cinéaste allemand, a posé ses caméras et ses micros. Romuald Carmacar est lui aussi inexplicablement ignoré des distributeurs français. Aucun de ses films n'est sorti en France alors qu'il est l'auteur depuis près de 40 ans d'une œuvre majeure. Il a exploré diverses incarnations du mal, du tueur en série Fritz Arman, l'inspirateur de M le Maudit, à l'imam de Hambourg qui avait endoctriné les auteurs du 11 septembre en passant par Heinrich Himmler. Il a signé aussi des documentaires majeurs sur la musique électronique et a aussi dès ses débuts, montrer de l'intérêt pour les animaux, des coqs et des chiens de combat, et pour les rapports que les hommes entretiennent avec eux. Avec ce nouveau documentaire, Der unsichtbare Zoo, le zoo invisible en français, Romuald Carmacar nous plonge pendant 3 heures dans un des zoos les plus prestigieux et cotés au monde, celui de Zurich, envisagé comme un lieu à la fois de spectacle, de conservatoire du vivant et de collectif humain, où le rapport à l'animal est à la fois affectueux et froidement technique, avec une bande-son impressionnante depuis puissance suggestive, le cinéaste y radicalise aussi sa pratique du plan large, fixe et long qui place le spectateur dans l'attente permanente qui advienne quelque chose. Romuald Carmacar.
Parce que beaucoup de gens s'intéressent bien sûr aux films d'animaux. Et les films d'animaux nous donnent une fausse image de la physique des animaux, des mouvements des animaux. Par exemple, un lion, il dort 20 heures par jour. Il dort autant qu'un koala. Mais dans notre impression, c'est un animal dynamique qui est toujours in movement, mais c'est pas le cas. Alors il y a un distortion entre notre compréhension des animaux et ce que est la réalité, même dans le zoo. En plus, à cause des films, on a le privilège de toujours voir les animaux. Mais ça, c'est une expérience importante qu'on doit faire, même dans le zoo, que des fois, dans les zoos modernes, scientifiques, tous les animaux, ils doivent avoir un lieu de recul. C'est-à-dire, s'il n'a plus envie d'être visionné par les visiteurs, il va à un backstage. Et par exemple, dans le zoo à Zurich, il y a un grand hall écologique, Masoala, et là, ils ont mis une grande fontaine d'eau. Et c'est ça l'endroit où les animaux ils peuvent se reculer et les gens ils peuvent pas le voir. Et à cause du son de l'eau, les animaux ils entendent plus les hommes. Un zoo apprend à voir ce qu'on peut pas voir au premier plan. C'est une éducation contre cinéma qui nous fait toujours, qui nous donne toujours le privilège d'avoir la possibilité de toujours voir les choses. Il y a un autre niveau qui est important, que si on veut voir des animaux sauvages dans la nature, c'est presque impossible parce que il y a, au début du film, les curators ils parlent de ça, l'habituation des animaux dans la nature sauvage. C'est-à-dire, les animaux que nous, on voit dans les parcs nationaux, c'est des animaux habitués à des hommes. Et ça met peut-être 4 à 5 ans pour que, par exemple, un gorilla est habitué à un homme qu'on peut le voir dans la nature. Et ça, c'est très fascinant parce que ça croise le grammaire du cinéma à tous les niveaux.
Invisible de Romuald Karmakar était présenté à Berlin dans la section Forum. Espérons qu'il ne reste pas trop longtemps. Invisible en France, avis aux distributeurs. La 74e Berlinale se termine ce soir. On saura alors qui a remporté l'Ours d'Or et d'autres récompenses. Vous écoutez France Culture, plan large. Et avant de finir notre tour du monde à Cuba avec Sandra Onana, quelques annonces à vous faire. Deux festivals d'abord, du 29 février au 10 mars à Paris et en Seine-Saint-Denis. C'est le 19e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, l'occasion de découvrir le meilleur du cinéma arabe, mais aussi de revoir des classiques comme Omar Gatlato de Merzak Alouach ou La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo. Parallèlement au cinéma L'écran de Saint-Denis, toujours, se tiennent du 27 février au 11 mars les Regards satellites, riche programmation encore sur l'autre cinéma indépendant américain, celui des Afro-Américains, et la présence de tout le collectif argentin El Cine Pampero, à qui on doit certains des films les plus stimulants de ces dernières années, comme La Fior ou Trenque Lauken. De rétrospective encore, le cinéma radical et sensuel, Mathieu Macheret dirait même érotique, de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet est à la Cinémathèque française du 29 février au 11 mars. Allez-y sans crainte, vous n'êtes pas à l'abri d'un émerveillement. Et si vous êtes plutôt adepte des chairs mutantes et des beautés inattendues de l'intérieur du corps humain, c'est à Nantes qu'il faut vous rendre. Rétrospective intégrale David Cronenberg au cinématographe en attendant son nouveau film The Shrouds, qu'on ne serait pas surpris de voir en compétition au prochain Festival de Cannes. Mais puisqu'on est aujourd'hui berlinois, on finit cette émission avec un film qui a été présenté dans la section Forum de la Berlinale. C'était en 1977.
En La Habana, en estos momentos, una amplia zona de solares y cuarterías se transforma. Se destruye y se remodela el viejo barrio de Cayo Hueso.
Pero durante estos años, la revolución no ha dejado de actuar contra todo resto de cultura marginal. En 1961, se construyeron 5 repartos nuevos para alojar a los vecinos del desaparecido barrio insalubre de Las Yaguas. Desde el plan de ayuda mutua y esfuerzo propio, por el que fueron construidos repartos como este, hasta las actuales microbrigadas obreras, todo es parte del cambio habitacional dentro de una estudiada estrategia de integración. Paralelamente a la educación, cada día más íntimamente ligada al trabajo, constituye nuestra arma principal.
Bueno, ¿cómo yo me siento? Bueno, yo me siento, no me siento muy bien. Yo soy, bueno, graduada de Tope, de la mina, de Tarará, y entonces llegar aquí, ¿no? Y encontrarme con todo esto es un mundo muy, muy extraño, es un mundo que yo no conocía y además un mundo que yo pensé que ya no existía.
Une voix off de propagande réaliste socialiste qui vante la destruction d'un quartier de bidonville et dénonce sur fond de musique cubaine le marginalisme des populations qui y vivent. Une belle institutrice, rien découragée par l'ampleur de la tâche qui lui incombe et dans laquelle se reconnaîtront nombre de ses homologues des ZEP françaises, c'est un extrait de De Cierta Manera, d'une certaine manière en français, un documentaire fiction signé Sara Gomez, pionnière du cinéma féminin, féministe et afro-cubain, disparue prématurément à l'âge de 31 ans, avant même d'avoir terminé son film. C'est une des œuvres rares et aux formes inattendues qui composent le programme Années 70 des Images se lèvent. Sur la plateforme Tenk, on y retrouve aussi d'autres films de colère, signés pour les plus connus par Sarah Maldoror ou Jocelyne Saab et de nombreux autres cinéastes en lutte. Mais c'est celui-ci qu'à peine remise de la cérémonie des Césars, vous avez retenu, Sandra Onana, en raison de la complexité de son regard et de son approche, Sandra ?
Oui, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses étonnantes à dire sur ce film. La première, c'est qu'en effet, au début, on s'attend à voir un clip de propagande. C'est financé par l'équivalent du CNC cubain, créé au lendemain de la Révolution. Alors évidemment, on se dit, bon bah voilà, il y a un agenda politique, quoi, ce serait vanter le projet culturel d'État. Sauf que Sara Gomez, elle tourne ou elle détourne ce film à l'entre-deux de l'expérimental, très nouvelle vague, et elle s'arrache au dogmatisme. On est au début des années 70, c'est plutôt la contradiction qui s'invite partout. Et ça s'exprime déjà dans ce titre que j'aime beaucoup. D'une certaine manière, ça ressemble déjà à un vœu de mise en perspective des choses. C'est presque la maxime de Renoir, chacun a ses raisons. Et il faut déjà s'arrêter sûrement sur qui est cette jeune cinéaste. Première femme cubaine à signer un long métrage, c'est pas rien. Et bah, c'est une enfant de la Révolution, simplement. Née en 1940, c'est-à-dire qu'elle a sûrement à peu près le même âge que celui qu'elle prête à sa protagoniste, Yolanda. Et tout comme cette héroïne, elle a saisi les opportunités scolaires offertes aux filles. Donc elle a étudié le journalisme, la philo, l'ethnologie. Et ça, ça éclaire pas mal l'approche qu'elle a des sous-cultures dans le film, ces folklores afro-cubains de la marginalité dont elle va chercher les sources dans l'histoire coloniale. Et c'est assez gonflé d'ailleurs, parce qu'en substance, le film nous dit « Aux origines du machisme à Cuba, il y a le colon ». À côté de ça, on sait qu'elle a travaillé entre autres avec Agnès Varda et qu'elle fabrique une œuvre assez anticonformiste pour qu'un de ses précédents courts-métrages ait été interdit par les autorités culturelles. Donc voilà, ça pose un tempérament et au départ de cette fiction-là, il y a un coup de foudre. C'est une romance transclasse. On a Mario, l'ouvrier macho, qui croise le regard de l'institutrice Yolanda, donc femme idéaliste, indépendante, divorcée. Et cette histoire d'amour sera marquée par le conflit tout le temps. Jusqu'à la fin d'ailleurs, on ne prétend pas avoir réconcilié quoi que ce soit. C'est un film qui va toujours au conflit. Et ça sert à se pencher sur une crise identitaire dans cette République de Cuba toute neuve. On ressent à la fois l'élan très lumineux, entraînant, même musicalement, on l'a entendu, d'embrasser le rêve communiste, socialiste. C'est super, on détruit les bidonvilles pour reloger les gens, on alphabétise à tout va. Mais il y a aussi un enjeu d'assimilation pour ces Cubains venus de la rue et de la pauvreté comme Mario. Et on sent que leur identité va pas se diluer d'un coup de baguette magique dans l'espèce de grand bain d'unité nationale. Donc ça donne un film très subtil, avec très peu de moyens. On va mélanger des acteurs professionnels extraordinaires aux communautés des quartiers de la Havane. On fait débouler Mario et Yolanda dans un resto en face d'un couple un peu plus chic pour observer la complexité de ces rapports sociaux. Et on sent qu'il y a une angoisse, en fait, une surveillance aussi entre camarades. Faut bien trinquer à la santé de la Révolution. Alors évidemment qu'on ne construit pas du nouveau sans démolir l'ordre ancien. Il y a une forme de violence dans ça. C'est ce que racontent aussi ces images documentaires de démantèlement des quartiers insalubres. Et tout ça est extrêmement habité, très incarné par la mélancolie et la peur du personnage masculin. Parce que Sara Gomez, elle écrit pas un manuel de bonne conduite révolutionnaire, elle écrit des personnages, ils ont le droit d'être aveuglés, ils ont le droit d'être bornés. On va pas s'interdire de donner une sorte de douceur tragique à Mario, même en désignant comme extrêmement sexiste ces codes de masculinité auxquels il s'identifie. Et là où Sara Gomez refuse encore de brosser les idéologies dans le sens du poil, c'est qu'elle fait aussi de Yolanda une instite du genre un peu hygiéniste quand même, un brin fanatique. On la voit s'engueuler avec une mère d'élèves parce qu'elle lui reproche l'échec scolaire de son enfant défavorisé. J'aime beaucoup le certificat de réel que le film donne à ces scènes de fiction, parce que ne serait-ce qu'en nous présentant Yolanda comme dans un micro-trottoir, elle regarde face caméra quand elle dit « bah puisque vous me posez la question, moi ça va pas super ». Donc gros caillou dans la chaussure de l'idéalisme quand même. Et on se rend compte surtout assez vite qu'au-delà de l'histoire d'amour, le nœud du film, c'est un conflit de loyauté. Un peu comme dans un film de mafia, c'est la trahison de Mario envers ses origines, au nom d'un bien supérieur, la raison d'État, pour être à la hauteur de l'amour de Yolanda, sans doute d'ailleurs. Et ça se produit quand l'ami de Mario lui demande de le couvrir pour qu'il s'absente de l'usine quelques jours en compagnie galante, on va dire. Et l'astuce, ce sera de nous présenter deux fois la même scène à l'identique pour qu'on en mesure la portée à retardement. C'est une scène d'AG de travailleur qui ressemble pas mal à une scène de procès. On accuse un camarade d'avoir déserté son poste. Alors est-ce que Mario va honorer cette vieille allégeance au copain de la rue ou est-ce qu'il va le dénoncer ? C'est encore une fois très gonflé d'envisager la loyauté envers la Révolution comme une possible lâcheté à un autre endroit qui est celui de l'honneur et de l'amitié. Donc c'est bien pour ça que le film, vraiment étincelle d'intelligence, de complexité, c'est une vraie découverte. Il y en a beaucoup d'autres à voir dans cette programmation réalisée avec l'association Talita sur Tank pour dessiner une sorte de carte du cinéma minoritaire, comme on l'appelle. On dit aussi non aligné. Et franchement, ça vaut le voyage.
Nada de aquellas cosas que por ti pasaron, de tu bregar por esas madrugadas. Si ella te muestra
Sandra Onana, de Cierta Manera, de Sara Gomez. C'est à voir sur la plateforme Tenk dans le programme Années 70. Des images se lèvent qui, effectivement, vaut le voyage. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Alex Dang. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Cassandre Puel.